CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
À qui le tour, bonjour.
Salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le mag du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui à un anniversaire, les 10 ans du PRE. Qu'est-ce que c'est le PRE ? C'est le projet de réussite éducative. Ça fait 10 ans que ce dispositif existe sur Montauban. Il est attaché à la politique de la ville. Et c'est Marion Dehaye qui en est la coordinatrice. Le 19 juin dernier, lors d'une grande journée à la fois studieuse mais aussi festive, Marion Dehaye m'a reçu dans son bureau pour me présenter ce dispositif. Je vous proposerai dans quelques minutes l'entretien que nous avons eu pour cette anniversaire. Et puis ensuite, vous entendrez Alejandro Parra, qui est au micro de Lisa Echen, Gitano Film Production. Il va s'agir d'un opéra qui, bien sûr, sera diffusé sur grand écran dans des châteaux. C'est l'interview de CFM Kailus à la fin de cette demi-heure qui commence en musique. Pour vous rappeler à toutes et à tous que si vous êtes du côté de Montauban et que vous nous écoutez en direct aujourd'hui, le 11 juillet, voilà, merci, vous pouvez descendre du côté du Jardin des Plantes à Montauban ce soir. Il y a la Bedoune qui devait jouer l'autre soir et qui a été annulée pour raison d'orage qui s'y produit ce soir. You're always on the run, like a bullet from a gun, 'cause you're living your life upside down. You always say that time is money, and that there is no time for you to play. Don't you see you're on the wrong way, but you don't hear.
See the sun that is shining. You can't hear the birds when they're singing. I wonder if you know there's a blue sky up above, and that all the men need is real love. Hey, you're living your life upside down. Yeah, you're living your life upside down. Oh, you're always on the run like a bullet from a gun that may make you fall down on the ground. Yeah, yeah. Believe me, baby, don't live upside and down, baby, don't live upside.
La Bedoune, donc ce soir dans le Jardin des Plantes à Montauban. C'était pas prévu, hein. Normalement c'était relâche pour le festival off de Montauban en Seine. Comme il a plu l'autre soir et que la Bedoune n'a pas pu se produire, eh bien elle se produit ce soir, la suite du festival Montauban en Seine. Alors donc si vous nous écoutez à la rediff, c'est que c'était hier soir. La suite, ce sera vendredi 12 juillet à 19h, la compagnie, la troupe du festival des Châteaux de Bruniquel. pour la princesse de Trébizonde. Ils donneront quelques petits extraits comme ça. Et puis il y aura après, à partir de 21h, la Silent Party de la conspiration, cette fameuse partie avec des casques sur les oreilles pour pas faire de bruit et avec deux DJ simultanés. Ce sera dans la cour de l'ancien collège.
Et à 21h, on pourra aussi descendre au Jardin des Plantes puisqu'il y aura le concert de Watusi.
Voilà, ça c'est vendredi. Et puis samedi, on en a parlé dans notre magazine hier soir. Il y aura la fameuse Block Party. Soyez à l'heure, hein, samedi 13 juillet, c'est 19h30 pétante dans la cour de l'ancien collège à Montauban que ça se passe parce que ça dure qu'une petite heure, la Block Party. Voilà, sachez-le. Allez, retour à notre actualité pour fêter les 10 ans du PRE, le projet de réussite éducative, le 19 juin dernier. Les travailleurs sociaux membres du PRE se sont retrouvés au centre social La Comète à Montauban pour une matinée de travail. Et puis après, bah, c'était à la maison des associations du quartier de la médiathèque que cet anniversaire s'est prolongé avec un après-midi festif en compagnie des familles bénéficiaires du dispositif. Pendant que les jeunes participaient à une démonstration de hip-hop sur le parvis, je visitais l'exposition réalisée par Mourad Malawi, qui est installée dans le hall d'accueil et qui reprend sous forme de photographie installée sur des échelles les 10 ans du projet de réussite éducative. Et donc, en partant, je suis allé à la rencontre de Marion Dehé. Elle me reçoit le 19 juin dernier dans son bureau au premier étage. Bonjour Marion Dehé.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous fêtez les 10 ans du PRE, le projet de réussite éducative. Vous êtes la coordinatrice de ce projet. Est-ce que vous pouvez m'en donner une définition ?
Oui, alors le projet de réussite éducative sur Montauban est installé depuis 2009. Il émane en fait de la cohésion sociale, donc de 2005 avec le projet de Borloo, pour mettre en place dans les quartiers prioritaires un accompagnement social, éducatif, vers l'accès au sport, la culture, la scolarité pour des gamins, donc du coup qui évoluent dans un contexte un petit peu moins propice. Et donc du coup, dans le souci d'égalité des chances, on permet à ces enfants des quartiers, donc actuellement des quartiers médiathèque Chambord et cœur de ville, ainsi que les écoles REP, d'avoir un accompagnement individuel et global sur plus d'une année.
C'est une équipe de combien de personnes et ça touche combien d'enfants ?
Alors depuis en 10 ans, nous avons touché 260 enfants. On a environ 50 enfants par an. Nous avons une équipe de 5 référents de différentes structures. Nous avons fait le choix de faire appel à des associations, à d'autres, au centre social également pour l'accompagnement spécifique de ces enfants.
Le PRE, en soi, c'est pas une équipe avec, je sais pas moi, des assistantes sociales, des éducateurs, etc., etc.
Alors, en fait, ça, c'est l'équipe de terrain, de proximité auprès des familles. Ensuite, tous les PRE sont équipés d'une équipe pluridisciplinaire de soutien, on appelle ça une EPS, qui est pluripartenariale, pluriinstitutionnelle, qui se réunit une fois par mois et qui réfléchit sur les situations. Donc là, est présent la CAF, le service social en faveur des élèves, le service des affaires scolaires de la ville, le service jeunesse de la ville, l'équipe de référents, éventuellement une assistante sociale du conseil départemental. Et après, au quotidien, notre travail fait que nous sommes forcément en lien avec les différents partenaires autour de la situation de l'enfant. Donc on travaille beaucoup avec le conseil départemental, la sauvegarde de l'enfance, les écoles, l'éducation nationale, etc.
Ce sont tous ces partenaires-là qui vous aiguillent finalement, les enfants et les familles avec qui vous allez travailler, c'est ça ?
Voilà, ils sont présents dès le départ pour l'orientation des familles parce que c'est eux qui les repèrent, qui repèrent ces enfants en difficulté qui nécessiteraient l'accompagnement du PRE. Et ils sont présents tout au long de l'accompagnement de l'enfant puisque du coup on n'est pas seul, on est là aussi en complément de ce qui existe. Le PRE arrive en complément du droit commun, donc non seulement on va être avec eux pour l'accompagnement, mais on va être avec eux quand on va réorienter les familles vers le droit commun, donc vers les services sociaux ou les structures compétentes.
Comment se fait l'entrée dans le projet de réussite éducative de l'enfant ?
Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. En fait, la plupart des orientations proviennent de l'éducation nationale. Et donc, du coup, ça va concerner des enfants qui vont présenter des difficultés d'apprentissage ou dans la relation sociale avec les autres, où on estime qu'il y a besoin d'une ouverture, d'un accès aux loisirs, d'un soutien à la parentalité. Donc, ces partenaires-là repèrent ces enfants. On parle aux familles comme pouvant apporter une aide pour comprendre les difficultés de l'enfant et aussi pour développer... des actions permettant les orientations et lever les freins D'accord. à la réussite éducative des enfants.
D'accord. Comment se déroule l'accompagnement en fait ?
Concrètement, donc, une fois que l'entrée dans le PRE est validée par cette fameuse équipe pluridisciplinaire, la famille est revue à nouveau, parce qu'elle est vue une première fois pour l'évaluation, pour expliquer le PRE, les objectifs. Une fois que c'est validé, on revoit la famille où on lui présente le référent qui va être l'interlocuteur de la famille et on signe une charte d'engagement en effet qui va permettre de fixer les objectifs. C'est-à-dire qu'on est tous bien d'accord avec l'enfant, cette charte est co-signée avec le parent, l'enfant, le référent et moi-même la coordinatrice, sur les objectifs que l'on se fixe pour une année. Donc ça va être l'accès au sport, favoriser la relation aux autres, des choses comme ça. Et du coup, ça engage aussi la famille à être partie prenante des actions qu'on va pouvoir proposer et nous d'assurer un suivi individuel et global à l'enfant.
Est-ce que l'entrée dans le PRE ou l'orientation vers le PRE pour la famille, c'est pris comme une chance ou plutôt c'est pris comme... est-ce que ça ne peut pas être mal pris en quelque sorte ?
Alors, c'est parfois difficile parce que, surtout pour le public plus petit, les parents ont parfois du mal à voir les difficultés de l'enfant. Nous, parfois, professionnels, ou surtout dans les petites la crèche ou les écoles, on repère des petits signes de fragilité qui ne sont pas forcément compris encore à ce moment-là par la famille. Donc, elles entendent que le PRE peut être un soutien à la scolarité, mais là où parfois elles sont un peu surprises, c'est que le PRE, ce n'est pas que d'accompagnement à la scolarité, c'est aussi tout l'environnement de l'enfant. Donc, quand on investit forcément le contexte familial, les conflits conjugaux, ben voilà, ça soulève forcément quelques interrogations de la part de la famille, mais ça, c'est tout notre travail. Moi, je suis issue du travail social, c'est tout un travail d'accompagnement pour amener les familles déjà les écouter, être présente pour elles, donc elles comprennent cette bienveillance et une relation de confiance qui s'instaure. Et du coup, petit à petit, on peut les amener à ce genre de prise de conscience et à des réorientations.
D'accord. Et donc ensuite, vous fonctionnez au travers de projets avec ces enfants, avec des objectifs
Alors, on a prioritairement, ce sont des objectifs purement individuels par rapport à l'enfant. Donc, du coup, ça va être l'accompagner à découvrir des différents clubs de sport. Ça va être l'accompagner physiquement l'enfant et sa famille au CMPP parce qu'il y a eu tout un travail d'orientation vers le soin. Donc, on est des CMPP, centre médico-psychologique. Enfin, voilà, ces structures de soins ou éducatives ou sportives ou culturelles. Et puis, parfois, comme on repère que certains enfants ont des difficultés communes, on peut mettre en place des actions spécifiques collectives. C'est pour ça qu'on a développé un partenariat avec Eve Muller, qui est sophrologue et animatrice de théâtre, qui a mené avec nous des ateliers, des stages pendant les vacances, gestion des émotions. Sous forme de théâtre, les gamins ont pu parler de leurs émotions, de ce qu'ils vivent au quotidien et d'apprendre à le gérer, comment on gère un conflit, comment on gère ses émotions. Voilà, on peut mettre en place des actions spécifiques. On a fait des stages d'art-thérapie aussi. Voilà. Mais on va prioritairement se faire appel à ce qui existe déjà dans le droit commun, c'est-à-dire vers les structures qui ont déjà des projets.
Alors, là, aujourd'hui, vous me recevez dans votre bureau. On est à la Maison des Associations, dans le quartier Médiathèque Chambord. C'est pour les 10 ans donc, de ce projet de réussite éducative. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il y a déjà, on peut évaluer le travail qui a été fait. Parce que vous prenez les enfants de 6 à 16 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a certains enfants, aujourd'hui, c'est des adultes.
C'est ça. Alors, depuis 2016, on s'occupe aussi des 2-6, parce que justement, on s'était rendu compte qu'il fallait un travail vraiment bien en amont, bien avant le CP, bien avant l'âge de 6 ans, et que, donc du coup, voilà, c'est quelque chose qu'on a développé. Et oui, en effet, on croise, les référents croisent parfois des grands ados, enfin des jeunes adultes qui ont plaisir à venir nous conter leur parcours et qui sont installés. Et on a des parents qui sont vraiment très contents du dispositif et qui nous le renvoient. On a, ça fait 2 ans d'affilée que 100% des sorties du dispositif sont positives, c'est-à-dire que les objectifs sont atteints. On est sur une moyenne d'accompagnement de 18 mois, parfois 2 ans, mais la grosse majorité, c'est 18 mois. Donc, c'est plutôt positif, en effet, ce qui se fait. Après, ça ne veut pas dire qu'on a résolu toutes les situations, mais pour des situations vraiment complexes, on a pu les accompagner vers d'autres structures éducatives beaucoup plus soutenantes, mais on a pu permettre des portes ouvertes et de plus gros accompagnements nécessaires à la réussite de l'enfant. Voilà.
D'accord. Il y a pour le coup une petite fête aujourd'hui, les parents sont là, les enfants, on les entend derrière en fond, il y a une animation autour du hip-hop. Et il y a une expo. C'est cette expo qui retrace un petit peu tous les projets que vous avez faits, c'est ça, au long des 10 ans, c'est ça ?
C'est ça, l'idée, c'était de mettre en avant ce qu'on a fait depuis 10 ans, de mettre en avant le quotidien, parce que c'est difficile, c'est pas toujours très parlant ce que c'est que le PRE, surtout pour les familles. Donc du coup, depuis plusieurs années, on rassemble des photos, il a fallu fouiller dans les archives, parce que moi je suis là que depuis 2014. Et puis du coup, on a fait appel à Mourad Malawi, qui a su, parce que c'est un artiste, mettre ça en valeur avec la philosophie de l'échelle. Pour lui, voilà, le PRE, c'est s'élever par l'éducation. Il a vu cet esprit-là et du coup l'expo symbolise ça et du coup elle est visible à la Maison des Associations jusqu'à la fin de l'été. Elle sera transposable, donc du coup on la ressortira dans d'autres événements et on pourra mieux parler en image du PRE.
D'accord. Et enfin, pour une famille, les adultes ou les enfants qui prennent connaissance de ce qu'est le PRE, est-ce qu'ils peuvent venir directement vers vous ou est-ce que c'est finalement plutôt les professionnels qui vont les orienter ?
Alors ça, c'est un point important qu'on soulève depuis 2 ans auprès des partenaires financeurs, parce qu'on fait un état aussi chaque année de résultats. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a de plus en plus d'orientation de la part des familles elles-mêmes, soit parce que le grand a bénéficié du PRE, elle nous sollicite pour le plus petit, soit parce que la voisine, la cousine, ils en parlent entre eux, entre parents, je connais le PRE, nanana, et du coup, ça prouve aussi que les parents eux-mêmes sont demandeurs. D'accord. Ça, c'est important.
Qui finance le PRE ?
Alors, le PRE est cofinancé. Donc, la collectivité, bien sûr, le Grand Montauban, à hauteur de 40 000 euros. L'État, par le biais du Comité Général d'Égalité des Territoires, le CGET, finance en grande partie aussi à hauteur de 60 500 euros. Et par rapport à tout ce qui est volet soutien à la parentalité, la CAF intervient aussi à hauteur de 3 000 euros.
La suite du PRE, est-ce qu'il va y avoir des changements ? Pas de grands projets ?
Poursuivre, c'est déjà pas mal. C'est vrai que cette journée festive avec un temps ce matin qui réunissait les professionnels sur la thématique de la réussite éducative avec une conférence vraiment intéressante avec un professeur en sociologie. Voilà, je pense que c'était intéressant peut-être de refaire l'expérience. Et puis cet après-midi festive avec les familles qui sont réunies entre elles, ça me donne envie de peut-être refaire l'expérience. Et en tout cas, de continuer sur de beaux projets. Oui.
Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci à vous.
Voilà, c'était le 19 juin dernier dans le bureau de donc la coordinatrice du PRE, Marion Dehé, à l'occasion des 10 ans de ce dispositif. Vous pourrez réentendre cette émission sur notre site internet cfmradio.fr.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Dans la suite du MAG du Tarn-et-Garonne, on s'intéresse à des projections d'opéra sur grand écran dans des cours de château.
CFM, à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
À Montpezat de Quercy, le festival Bleu Trompette bouge. Du 29 juin au 28 août, dans les rues historiques, découvrez une exposition exceptionnelle des gens d'ici et 4 concerts gratuits les 18, 19, 20, 21 juillet avec Alma, Nicolas Gardel Quintet, Marc Laferrière Quartet et Hot Swing Daddies. À Montpezat de Quercy cet été avec le festival Bleu Trompette, quercinez-vous. Toutes les infos, office de tourisme ou sur bleutrompette.fr.
L'Ajal propose 2 rendez-vous incontournables à Sauveterre de Rouergue. Le 1er août, Big Flo et Oli à la Bastide avec Kantès et Matzès en première partie. Puis le 3 août, pour la 33e fête de la lumière, numéro vertigineux sur un mât de 18 mètres, spectacle visuel, feu d'artifice et lâcher de lanterne, concert pétillant de la Yegros, reine de la Noukoumbia, ainsi que le vainqueur du tremplin des 100 vallées, Cat Cross qui invite Clive Dimmer, batteur du groupe Radiohead. Réservation dans les offices de tourisme du pays Ségali.
Du 18 au 21 juillet, le festival Africa Jar revient pour sa 21e édition. Gnawa Diffusion, Tchèklo, Bonga, Mokumba, un hommage à Césaria Evora avec Loura, Nancy Viera, Lucie Bella et Théophile Chantre. Sur le off du festival et en accès libre, des contes, projections ciné, marché artisanal, animation de rue, concerts, expositions, bandes dessinées et littérature. Le festival Africa Jar, une invitation aux cultures d'Afrique, du 18 au 21 juillet à Cajarc dans le Lot. Infos et réservations sur Africa Jar. africajar.com.
Votre département MAG, le magazine du Tarn-et-Garonne, arrive dans vos boîtes aux lettres cette semaine.
Au fil des pages, un été festif avec un bouquet de festivals. Le projet qui fait renaître la pente d'eau de Montèche. Le dossier consacré à la fibre optique. D'ici 2022, 100% du Tarn-et-Garonne connecté en très haut débit. Plage 82, la plage de toutes vos envies. Et retrouvez toutes les activités pour une saison estivale sportive sur le plus grand terrain de jeu qu'est le département. À vos boîtes aux lettres.
Conseil départemental de Tarn-et-Garonne. La proximité au quotidien. Retrouvez-nous sur ledépartement.fr. Et sur la page Facebook, département de Tarn-et-Garonne.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Voilà, et on retrouve tout de suite Lisa Echen qui interviewe Alejandro Parra des Gitano Films pour des projections d'opéra dans des châteaux.
Des nuits d'opéra sur grand écran dans un château médiéval, c'est ce que nous propose le cabaret du hasard en partenariat avec Gitano Film Production. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Bonjour Alexandre Parra.
Bonjour Lisa, comment vas-tu?
Ah bah, moi ça va très très bien, j'ai hâte de voir ça, notamment ce soir à partir de 22h au château de Saint-Projet. On aura aussi un autre rendez-vous demain du côté de Montricou pour tout plein de, ouais, de dates. Là, vous proposez 9 rendez-vous dans des jardins de châteaux et des sites médiévaux pour donc de l'opéra. D'où vient cette idée?
Bah, l'idée elle est très simple, mais c'est... Outre-mer, parce qu'en fait, moi aussi, j'ai quitté nos productions, nous avons un cinéma au Chili, où nous avons obtenu, il y a 4 ans déjà, les droits d'exhibition des opéras et des ballets. Et aussi, au fur et à mesure des années, on est venu des amis avec les producteurs, ils m'ont donné les droits d'exhibition en France.
Alors, donc, on parle... C'était plein d'opéras, ouais, différents qu'on devait tourner dans plein d'endroits différents dans le monde.
Oui, ouais. Mais nous avions le droit pour le Chili et maintenant nous avons le droit d'exhibition pour la France. Donc de là, c'est venu l'idée de faire une tournée dans des châteaux médiévaux parce que bon, je considérais que l'architecture et l'esprit d'un château médiéval, c'est aussi l'esprit de l'opéra. L'opéra, il est né presque en même temps que cette culture-là.
C'est vieux quand même, le Moyen-Âge, par rapport à l'opéra, non?
Oui, mais l'opéra, c'est devenu la voix du peuple. Disons que c'était la façon de s'exprimer du peuple, qui après ça a été pris par la bourgeoisie, et c'est devenu un moment spécial qui est pour les gens qui avaient les possibilités de se payer une entrée chère dans des théâtres d'opéra, et en plus être habillé correctement, disons, que ça ne permettait pas aux gens du peuple, aux gens de la campagne, à assister à une culture qui s'éteignait depuis eux.
Alors vous proposez quelque chose de plutôt douillet, hein, dans ces jardins, dans ces châteaux. Vous parliez de prix, de questions de d'abordabilité, même si ça se dit pas du tout, hein. Vous proposez donc des soirées à partir de 10 euros. C'est gratuit pour les moins de 13 ans pour aller voir donc ces opéras. Ce soir, c'est à 22h au château de Saint-Projet. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, hein?
C'est Ariane de Naxos de... C'est un des opéras de Johann Strauss et qui est interprété par le Salzburg Festspiele, les corps de musique de l'opéra de Salzburg. Et demain, ce sera Orphée et Eurydice. C'est dirigé par Willibald Gluck, qui a été enregistré à la Scala de Milan. Et ça, c'est au château de Montricou.
Et donc, 9 rendez-vous en tout, ça courra jusqu'au 1er septembre. Est-ce que vous avez, ouais, des coups de cœur? Alors, on peut aussi aller voir, hein, la programmation entière de ces nuits d'opéra sur grand écran dans des châteaux médiévaux sur le site de la Distillerie des Arts de la Guépie, avec qui vous êtes partenaire. Mais est-ce que vous avez des coups de cœur particuliers? Est-ce que vous nous propulsez vers un endroit, un coup de cœur à vous?
Bah, Ariadne de Naxos de Johann Strauss, c'est celle qui c'est ce soir au château de la Reine Margot, c'est mon coup de cœur, ensemble avec Carmen de Bizet, qui a été fait enregistré par les corps d'opéra de l'Opera House de Zurich.
Vous êtes, donc vous disiez, les droits exclusifs pour la France, pour tous ces opéras.
Ouais.
En partenariat donc avec Arte et tout ça. Ça va, c'est la classe quand même.
Bah pour nous, c'est une fête et une grande réussite de pouvoir amener la culture qui a été un privilège de la bourgeoisie pour des prix complètement abordables. En plus, dans un cadre magnifique, c'est un château.
Mmh. Et itinérant, du coup, vous l'apportez vraiment à travers
tout
le département.
Et les gens qui, en fait, là pour cette fois-ci, c'est un rayon autour de 50 kilomètres. Donc, s'il y a des gens qui aiment bien l'opéra, ils peuvent voir Orfeu de Ruysis, Tosca, Macbeth, Alcina, dans des autres châteaux comme Saint-Martin de la Guépie, Castelnau de Lévis, l'Abbaye de Beaulieu. C'est des belles endroits, c'est des belles opéras, donc une soirée assurée.
Et le tout donc grâce à vous, Alexandre Parra, de Ritano Films Production, en partenariat donc avec la distillerie des arts de la Guépie, le cabaret du hasard. On vous remercie beaucoup beaucoup, et donc le rendez-vous là à ne pas manquer, c'est donc ce soir au château de la Reine Margot de Saint-Projet, c'est à partir de 22h. Sinon il y a aussi demain à Moricou, puis pour le reste des dates il faut aller voir sur le site de la distillerie des arts, il y a tout plein d'opéras, une dizaine à voir jusqu'au 1er septembre. Merci beaucoup, Alexandre Paré. Donc à ce soir.
Merci à vous et à ce soir.
CFM, le MAG. Tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Voilà, ça c'était donc le MAG du Tarn-et-Garonne. Vous pouvez retrouver ce MAG en rediffusion le lendemain à midi. Donc vous le réentendrez ce vendredi à midi, de midi à 12h30. Et puis en suivant, il est sur notre site internet cfmradio.fr. Si vous aussi vous voulez participer à ce magazine, hein, parce que vous avez organisé des choses, vous avez des trucs à dire, eh ben vous hésitez pas, vous prenez contact avec la rédaction au 05 63 93 00 20, que ce soit la rédaction de CFM Montauban ou la rédaction de CFM Caylus, avec qui nous co-animons cette émission une fois tous les 15 jours.
Et on a démarré ce MAG du Tarn-et-Garonne avec La Bedoune qui joue ce jeudi soir au Jardin des Plantes. Et demain, il y aura Watusi. En voici quelques mesures.